Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, on va ouvrir notre Bible si vous voulez bien. On va tout simplement prendre un texte dans l'évangile de Matthieu. Alors, évangile de Matthieu, eh bien c'est de circonstance, hein, une réflexion sur cette période que nous vivons, cette période de Pâques. Alors, on le dit et on le proclame, il faut le croire, Christ est ressuscité. Ça, c'est la grande vérité de l'évangile. On va lire simplement deux versets et après je reprendrai le texte au fur et à mesure, parce que il s'agit de l'évangile de Matthieu, le chapitre 27. Et le chapitre 27, je ne voudrais pas quand même vous décourager, mais il y a quand même 56 versets. Alors, on va pas les lire pour les relire. On va les prendre au fur et à mesure, d'accord? Hein? Alors, Matthieu, chapitre 27, et on va prendre simplement le verset 21 et 22 qui va, tout simplement nous situer dans notre réflexion. Alors, verset 21, le gouverneur, alors il s'appelle Pilate, hein, tout le monde le connaît, prenant la parole, dit à la foule, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Alors je voudrais m'arrêter sur cette petite phrase. C'est Pilate qui pose la question au peuple juif et il leur demande « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?»« Que ferais-je donc de Jésus ?» Alors, la question a été tranchée ce jour-là, parce que, aveuglé probablement par la jalousie, l'envie, certainement une profonde inimitié contre Jésus. Alors, tout le monde a répondu, même ceux qui, peut-être précédemment, avaient été interpellé, voire même guéri, enfin je suppose, mais interpellé par Jésus, tout le monde d'une même voix, comme un seul homme, ont répondu qu'il soit crucifié. C'est quand même un retournement de situation, mais cela nous parle, et c'est surtout sur cela que j'aimerais que nous réfléchissions ensemble cet après-midi, c'est ce que l'on pourrait appeler la versatilité de la nature humaine. On peut dire oui, et le lendemain on peut dire non. On peut refuser aujourd'hui et puis demain on va changer d'avis. Vous savez, ça c'est un petit peu le caractère humain. Hein. C'est-à-dire que c'est en fonction des circonstances, en fonction des événements, des situations, voilà. Et la Bible nous le dit, c'est même Jésus qui nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans le cœur des hommes, au niveau de ses sentiments, au niveau de ces renversements de situations qui font que, ce qui fait la preuve évidente que l'homme sans conviction, sans assurance profonde, est prêt, comme on le dit, hein, cette expression elle est populaire, tout simplement à retourner sa veste. C'est-à-dire que la parole d'un homme n'a pas beaucoup de valeur. Alors, pourtant, Pilate avait quand même fait la démonstration d'une tentative de sauver Jésus. Hein. Vous connaissez les textes, je ne vais pas les rappeler. Mais il avait insisté, il avait dit « Mais moi, je ne trouve rien de coupable chez cet homme. » Et au bout d'un certain temps, Pilate, probablement de guerre lasse, et puis aussi certainement pour préserver son image de marque, sa réputation, a dit « Bien écoutez, moi, je me lave les mains de ce sang, de cet homme, de ce juste, c'est votre affaire. » Alors, on s'aperçoit que Pilate, comme les autres, pourtant c'était un magistrat, hein, qui avait une responsabilité impériale, va faire comme tout le monde. Et vous savez, si on regarde aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens sont prêts à changer d'avis et passer à autre chose. Alors on le voit, hein, vous savez, on le voit chez Jésus à ce moment-là, on le voit par exemple quand Pierre, ou quand Paul particulièrement, est à Lystre, alors qu'on veut l'adorer comme un dieu, hein, on l'appelle Jupiter, Mercure, etc., etc., il est avec Silas à ce moment-là, Eh bien, à un moment donné, on veut lui offrir un sacrifice comme si c'était un dieu, et puis quelques heures après, eh bien, on va le lapider à mort. Donc, c'est pour vous dire que... Et ça, le monde est comme ça, hein. Aujourd'hui, il peut dire, ah, mais c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est sensationnel. Et puis demain, eh bien, il va brûler l'idole, tout simplement, qu'il a adoré précédemment. Et c'est ce qui se passe pour Jésus. Là, c'est un cas, une démonstration tout à fait flagrante de la manière dont le cœur de l'homme est changeant, il est versatile, il est prêt à prendre n'importe quelle position et à se dédire, ou même tout simplement à se déjuger, hein. Mais ça, c'est la nature de l'homme, et je crois que aujourd'hui, il y a probablement, eh bien, des gens qui diraient, mais moi, si j'avais été à ce temps-là, eh bien, c'est sûr que j'aurais pris fait et cause pour Jésus, mais ça, personne ne peut le dire. Hein, moi, vous savez, j'aurais véritablement fait quelque chose pour Jésus. Et quand on voit ce qui peut se passer, les émotions, les sentiments, tout cela controversé, eh bien, quelquefois, ça ne donne pas toujours de bons résultats, parce que, on le voit, c'était dans le plan de Dieu, mais Jésus a quand même été crucifié. Et on a préféré à la vie de Jésus, eh bien, tout simplement, sauver un criminel qui s'appelait Barabbas, pour vous dire. Et que dire de plus, sinon que Jésus a marqué d'une empreinte tellement profonde son histoire, sa vie, ses miracles, ses paroles, ses enseignements, dans son temps, c'est-à-dire là, au moment où il vivait parmi son peuple, est tellement marqué parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Alors, on s'aperçoit que c'est important que nous puissions peut-être repasser sur notre cœur quelle est vraiment notre position, et comme Pilate le dira, mais que ferais-je de Jésus? Si aujourd'hui les choses se présentaient d'une manière ou d'une autre, mais qu'est-ce que je vais faire de Jésus? Quelle est la position? Quelle est ma position vis-à-vis de Jésus? Alors, il n'est pas sûr que si nous faisions, eh bien, ce référendum, ce que on pourrait peut-être appeler ça autour de nous, eh bien, il y a des gens qui peut-être pourraient dire des paroles de sympathie et puis aussitôt de dire le contraire, hein, et ça, c'est comme ça. Alors, nous allons voir successivement dans ce grand chapitre 27 de l'Évangile de Matthieu, eh bien, les différentes réactions, les différentes catégories de personnes qui vont se trouver là au moment du jugement, au moment de la trahison de Jésus, au moment de la crucifixion de Jésus. Quelles sont les réactions qui... ont été présentés et qui sont consignés à la fois dans l'évangile de Matthieu, dans Marc, dans Luc précisément aussi, et puis également dans Jean. Alors, les réactions et les attitudes au phénomène ou au problème ou à la question, Jésus, qu'est-ce que je vais faire de lui? Alors, la première chose qui vient à l'esprit, c'est tout simplement au début de notre évangile de Matthieu, chapitre 27, eh bien, il nous est parlé de son ami. Son ami, parmi ses amis, il y avait Judas. Judas avec un S. Et vous savez que il a laissé derrière lui une triste réputation de traître. Hein, Judas le traître. Et d'ailleurs, c'est passé dans le vocabulaire courant. Quand on dit, voilà, c'est un Judas, on sait ce que ça veut dire, hein. Et avec toute la signification, quelquefois, vénale qu'il peut y avoir, parce que bon, il a livré Jésus. On ne sait pas franchement les problèmes qu'il pouvait avoir dans son cœur vis-à-vis de Jésus, mais on savait une chose, c'est qu'il avait un autre problème, c'était l'argent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a demandé 30 pièces d'argent, le prix d'un misérable esclave. Alors Jésus a été vendu par Judas, et attitude et réaction de Judas. Alors on peut lire au début de chapitre 27, au verset 3, il nous est dit « Alors Judas, qui l'avait livré, c'est fait, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords, rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que cela nous importe, que nous importe cela, ça te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Alors, l'attitude que nous trouvons chez cet homme qui a pourtant cheminé, parce qu'il était à la première heure, du choix de Jésus, eh bien nous apercevons que c'est une position, lui qui a vécu quand même tant de choses avec Jésus, qui a mangé avec Jésus, qui a dormi dans la compagnie de Jésus avec tous les autres, naturellement, qui a entendu des discours extraordinaires, qui a vu des miracles, des prodiges. Enfin, imaginez-vous tout cela. Eh bien, il était, nous pourrions dire, le dépositaire de tant de prodiges célestes, hein, ayant certainement une certitude que Jésus de Nazareth, c'était le Fils de Dieu, c'était le Sauveur, et pourtant il le vend. Pourtant il va le trahir. C'est quand même curieux, hein. Et certainement, Judas auparavant aurait mis sa main au feu de dire, eh bien, comme Pierre, hein, je ne te trahirai pas, hein, certainement pas. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné, mais quand il a vu que Jésus était condamné, il a été pris de remords. Alors, je voudrais vous dire quelque chose, parce que le mot est signalé, il a eu des remords. Le remords n'a jamais été la repentance, d'accord? Les regrets, ce n'est pas la repentance. Constatation d'avoir mal fait et d'avoir fait beaucoup de mal, mais ça, c'est entre lui et lui, vous comprenez? Mais c'est pas entre celui qui était offensé et l'offenseur. Donc, il a été pris de remords, et là, comme si ça lui brûlait les mains, il est revenu vers les autorités religieuses, il leur a dit, voilà, vous m'avez donné 30 pièces d'argent, mais je peux pas supporter, je vous les ramène. J'ai péché. Donc, il le confesse. Mais c'est pas une confession de repentance. Tout ça, ce sont des mécanismes de l'âme humaine qui veut essayer de se préserver peut-être hein, d'un jugement qu'elle pressent. Et on lui a répondu, mais dis donc, c'est ton affaire. Tu nous as livré Jésus, nous, des pièces d'argent, c'est pas grand-chose. Mais en tous les cas, ce que nous voulons, c'est que tu nous livres finalement ton maître. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, Judas a jeté les, comme personne ne les prenait, ils sont certainement pas restés par terre, hein, je peux vous le dire. Mais toujours est-il qu'il les a jetés, eh bien, là, dans le temple. Et vous savez ce qui s'est passé, la preuve que ce n'est pas une repentance. Il nous est dit simplement qu'il s'est retiré et qu'il alla se pendre. Eh! Là, il y a eu une conviction de mort, mais de mort absolue. C'est-à-dire que s'il y avait eu une repentance, s'il y avait eu quelque chose de positif, eh bien, il se serait certainement abstenu de se pendre. Et nous voyons que là, c'est un homme sans espoir. Et l'attitude, c'est le regret, c'est le remords, mais finalement sans contrition profonde et sans retour spirituel réel qui va apporter une transformation que nous verrons chez Pierre d'ailleurs. Parce que Pierre va pleurer, il va avoir ce mouvement, mais lui va se ressaisir. Il va croire au pardon de Dieu. Or, Judas ne croit pas au pardon. Il ne croit pas au pardon parce qu'il ne peut pas se pardonner. C'est dramatique. Et il en arrive au suicide. Voilà le premier cas de réaction devant la question Jésus. Peut-être que Judas avait pensé une chose, c'est qu'au dernier moment, lui qui avait vu son maître faire des miracles, hein, calmer la tempête, ressusciter les morts, il dit, mais il ne va pas se laisser prendre. Il ne va pas se laisser faire. Et là, ils vont voir que c'est le Messie. Là, c'est un jeu dangereux, hein, de tenter Dieu. Et pourtant, Jésus s'est laissé faire. Il était comme un agneau que l'on mène à la boucherie et on l'a mis à mort sans qu'il dise un mot. Et les seuls mots qu'il a dit à la croix, les 7 paroles de la croix, c'était encore en faveur de tous ceux qui avaient péché contre lui. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Nous avons un deuxième exemple, il y en a 10, hein, on va voir très ça rapidement. Le deuxième exemple, c'est Pilate. On en a parlé parce que c'est lui qui a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Que ferai-je de Jésus, celui que vous me livrez maintenant? Alors, à partir du verset 11, on va voir un petit peu son histoire. Enfin, il nous est dit que Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Donc, il renvoie naturellement à Pilate, « Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors, Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Voilà. Un accusé qui ne se défend pas. Il y a là une foule d'invectives, de mensonges, de faux témoignages qui viennent à charge de Jésus, mais Jésus ne dit plus rien. Et on le voit par la suite, puisque nous allons le redécouvrir dans quelques instants. La caractéristique de Pilate, autant Judas est un traître, Pilate est un lâche. Attitude encore de la nature humaine. La traîtrise pour l'un, la lâcheté pour d'autres, parce que quand il va y avoir un peu de pression sur Pilate, et que la foule va crier de plus en plus fort, et qu'il y a le choix entre Jésus et Barabbas, alors à ce moment-là, eh bien, on va dire, mais tu te fais l'ami de César si tu ne nous livres pas Jésus. Parce que celui qu'on te livre, c'est un roi, ou en tous les cas, il se prétend roi, donc il va faire concurrence à l'empereur de Rome. Et Pilate commence à avoir peur, il se dit, mais attendez, Barabbas, c'est un criminel, c'est un homme de sang, il a certainement tué, dans des coups de main, probablement, des gens. Il a tué peut-être des soldats romains. Il mérite, normalement, d'être condamné et exécuté. Mais d'un autre côté, il y a Jésus. Mais ça, c'est une question politique. Vous vous rendez compte, se faire l'égal de César. Alors, Pilate, si tu le relâches, tu te fais tout simplement, eh bien, ennemi à ce moment-là de César, toi qui es son représentant, eh bien, dans cette province de Palestine, la lâcheté. Voyez, ça c'est le fond du cœur de l'homme et il y en a des histoires comme ça. Alors le troisième personnage, eh bien, nous le connaissons, c'est Barabbas, lui qui il a saisi une opportunité, mais qui ne pouvait pas finalement imaginer, hein, parce qu'il savait que de toute façon, un criminel, c'était un meurtrier, c'était un homme qui certainement, eh bien, avait entaché sa vie par le sang des autres. Et il nous en est parlé, il nous est dit qu'à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Bon, c'était une tradition, une coutume probablement. Il avait alors un prisonnier, il y avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire sur Barabbas? Sinon, ce que nous avons dit déjà, lui, il savait que de toute façon, sa vie était finie, hein, on l'avait pris. Il était sûr et certain qu'il serait exécuté. Mais il y a cette, pourrait dire, ce miracle, c'est qu'il y a un concurrent dans cette proposition de grâce. Il y a Jésus de Nazareth qui est là. Et nous nous apercevons que nous voyons qu'en tous les cas, eh bien, il va y avoir une hésitation à ce moment-là. Mais sous la pression, nous avons vu tout à l'heure en ce qui concerne Pilate, les choses prendront une autre dimension. Barabbas, c'est en quelque sorte le type de personne qui ne mérite rien, comme tous les autres d'ailleurs. Compte tenu de la gravité de ses forfaits, alors il n'y a aucun espoir pour lui. Et pourtant, il va vivre quelque chose qui peut ressembler à ce que nous vivons nous-mêmes, c'est tout simplement un gracier inespéré. Vous voyez ce que je veux dire ? Lui, il a rien demandé, on va le sortir de prison, et puis sous la force des pressions de la foule, on va dire, eh bien, on choisit celui-ci. Ben, vous savez, il nous ressemble quelque part, c'est encore une attitude. Lui, il a rien demandé, au contraire, il savait que c'était fini pour lui. Mais c'est peut-être un peu l'histoire de chacun, de chacune, où nous pouvons considérer que nous sommes un petit peu comme des Barabbas, ou que là, eh bien, c'est Dieu qui fait grâce. Alors que nous ne méritons rien. Ça, c'est encore une autre réaction. Alors lui, il va accepter, hein, pas de problème. Il va dire, mais si je peux sortir de prison, mais qu'est-ce qu'il fera de cette sortie de prison? Et là, en ayant obtenu la grâce de Pilate, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est pour recommencer des forfaits? Est-ce que c'est encore pour lutter comme patriote contre l'armée romaine? Ou est-ce que c'est pour, être encore un voleur de grand chemin et puis continuer sa vie comme ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Finalement, de la grâce que Jésus lui a donnée. Est-ce qu'il va la valoriser en disant maintenant, voilà, quelqu'un est mort à ma place alors que moi je devais mourir? Ou alors, bien, quelqu'un est arrivé comme ça, c'est une chance que j'ai eue, parce qu'il y a des gens qui parlent comme ça, mais moi ça va rien changer à ma vie. C'est la question qui est posée. Quelle réaction et quelle attitude avons-nous devant la question de Jésus, le problème Jésus? Jésus a donné sa vie pour Barabbas comme il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce que nous allons faire, puisque nous allons continuer à vivre, que nous continuons à vivre, dans quelle direction allons-nous aller? Est-ce que nous reprenons les vieux chemins qui nous ont amenés, eh bien, tout simplement à être dans l'état de Barabbas, ou est-ce que véritablement Jésus, le don de Jésus va changer quelque chose, va transformer notre vie? Il y a une autre catégorie de personnages qui viennent parce qu'ils font partie finalement, eh bien, on pourrait dire du décor d'exécution, c'est malheureux, mais c'est comme ça, ce sont les soldats. Les soldats, il nous est dit que les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Imaginez-vous, il y avait du monde, hein, et il y avait des soldats parce qu'on avait mis la main sur Jésus et il n'était pas question qu'il échappe. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenant le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Voilà cette foule. Ce sont des préposés de l'ordre et de la justice, exécuteurs, finalement, des hautes œuvres, c'est-à-dire l'exécution. L'attitude qu'ils ont est peut-être à la ressemblance de monde dans lequel nous vivons, un monde d'indifférence, de ce qui est sacré, de ce qui pourrait nous interpeller pour nous faire réfléchir et de faire peut-être l'analyse de ce qui est vrai, de ce qui est mal, de ce qui est juste, de ce qui est injuste, de ce qui est pur et de ce qui ne l'est pas. Or, nous voyons que les soldats, dans ce petit paragraphe, nous en laissent suffisamment pour que nous pensions à cette attitude de désinvolture, d'indifférence, de méchanceté, de moquerie, qui fait que, eh bien, Jésus est payé de mépris. Voilà, Jésus est méprisé, il est humilié, il est honni. Mais cela caractérise certainement le fond de cette humanité qui est inconsciente du mal qu'elle fait. Voilà, et c'est quelque chose d'assez interpellant, il faut bien le reconnaître. Et c'est pourquoi Jésus dira quelques heures plus tard, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Et nous sommes encore au bénéfice de cette prière. Le monde entier, depuis 2000 ans, est au bénéfice de cette prière, « Père, pardonne-leur. » Parce que s'ils savaient ce qu'ils font, s'ils savaient ce qu'ils disent, s'ils savaient dans quelle aventure ils s'engagent, ils auraient plus que honte, une véritable ignominie. Et c'est la caractéristique de ces soldats. Ils étaient leurs représentants, à ce moment-là, du mépris, de la moquerie, comme aujourd'hui, comme dans tous les temps. Il y a devant la question de Jésus et le problème Jésus que nous jugeons, que ferais-je de Jésus? Eh bien, tout simplement, c'est à la fois cette inconscience, cette indifférence, et puis mêlée de méchanceté. Parce que la moquerie, c'est pire que le reste. La moquerie, c'est quelque chose qui peut tuer, plus sûrement encore, peut-être que les mains. Ou avec des armes, d'une manière ou d'une autre. Et puis voilà que nous arrivons un peu plus loin. Là, nous sommes déjà sur le parcours qui monte à Golgotha, ce qu'on appelle aujourd'hui à Jérusalem la Via Dolorosa. Et nous avons un personnage qui arrive. Lui, c'est pareil, il va se trouver pris dans l'engrenage de cette folie collective. Et il résume bien ce que peuvent vivre, ce que peuvent subir, eh bien, encore une autre catégorie de ce que nous sommes en tant qu'hommes. Il nous est dit que lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, d'un juif, appelé Simon, et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Figurez-vous que Simon de Cyrène, c'est le type de personnage, là il est pris en quelque sorte en type, mais qui peut représenter aussi beaucoup de gens dans notre monde, peut-être même dans notre monde chrétien, qui se caractérise tout simplement des gens qui suivent Jésus sous la contrainte. Voilà. Ils n'ont rien demandé. Ils sont là. On leur intime l'ordre, comme Simon de Cyrène, de porter la croix de Jésus. Et il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a chrétiens et chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont libérés. Il y a des chrétiens qui sont joyeux. Il y a des chrétiens qui sont heureux d'être chrétiens et il y a des chrétiens qui sont malheureux d'être chrétiens parce qu'on les a forcés. On les a forcés parce qu'on a mis une croix de loi, de commandement, d'exigence, de précepte. Alors la croix, elle est lourde à ce moment-là. Ils la portent pas pour eux-mêmes, mais on leur a imposé. À défaut d'avoir connu peut-être une autre dimension. Une dimension d'épanouissement, une dimension de libération, une dimension d'affranchissement où vraiment on est heureux de suivre Jésus. Mais là, il va suivre Jésus en portant la croix, mais comme un malheureux. Alors, ça remet les choses en place, parce que je crois que dans le monde, et je pense le monde chrétien, je ne veux pas parler du monde qui est en dehors du christianisme, mais il y a des gens qu'on a forcés à être chrétiens. Oh ! On leur a intimé l'ordre d'être ainsi, selon les normes, selon le dogme, selon ceci et cela, parce que s'ils n'étaient pas comme ça, eh bien ils étaient perdus. C'est un monstrueux mensonge. Parce que Jésus n'a jamais forcé personne à le suivre. Il n'a seulement fait la proposition de le suivre, et en plus il nous a donné les éléments du contrat. C'est-à-dire, si vous le voulez, si vous y aspirez, Parce que si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Mais là, on l'a chargé sur le dos de Cyrène. Qu'il renonce à lui-même, s'il aime son père, sa mère plus que moi, ben, il n'est pas digne, parce que la place n'est pas une prééminence pour Christ. Mais c'est tout simplement, eh bien, une exigence et une obligation. Alors, il représente naturellement le type de personnage, eh bien, qui suivent Jésus sous la contrainte et par force, tout simplement. Alors, on va passer encore une autre catégorie, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Et nous avons alors à ce moment-là la foule de passants. Vous savez, les badauds, qui sont tellement avides de spectacles comme on l'est encore dans notre monde. Vous savez, les gens, ils sont en train de se repaître et de se repaître d'une nourriture spectaculaire. Et pas forcément dans le beau, mais dans le laid, dans le sordide. Vous avez vu la production cinématographique, les bouquins et tout ça, de tout ce qui fait peur, de l'horreur, du sang, des armes, de la guerre, etc., etc. Ah oui, cette foule de badauds, elle est avide, hein, parce qu'elle se nourrit de cela. Et elle a besoin de vibrer, elle a besoin d'avoir des émotions, et comme si le sang nous donnait des émotions. Hein. Ah, c'est pas des émotions de satisfaction, de plaisir et de jouissance, hein, le sang. Eh bien là, il y avait cette foule qui était là. Et cette foule, eh bien, on va le lire un petit peu comment ça se passait. Les passants l'injuriaient d'abord. Et il secouait la tête en disant, « Toi qui as détruit le temple et qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de ta croix. » Voilà le défi. Hein. Vous savez, ces gens qui sont là provocateurs, comme le monde est provocateur, comme le monde provoque également Christ et son évangile encore aujourd'hui. Là, on parle beaucoup de religion en ce moment parce qu'il y a eu quelques événements. Hein. Mais je peux vous dire que quelquefois, ça en fait sourire certains. Remarquez, au regard de ce qui est présenté, c'est sûr que quelque part, les gens, ils se disent, mais où est l'évangile dans tout ça? Mais ça excite de la combativité, je dirais même plus de l'agressivité. Parce que ça, c'est quelque chose. Et dans cette circonstance, cette foule de badauds, cette foule de regardants, de voyeurs, alors en profiter justement à ce moment-là, parce que c'était permis, parce que tout le monde était contre Jésus. Alors quand on est tous contre Jésus, bah c'est facile parce qu'on est perdu dans la foule. Et toutes nos invectives et tout notre comportement malsain ou voire méchant, eh bien, est dilué à ce moment-là. Parce que c'est la foule et c'est la majorité qui fait finalement, eh bien, en quelque sorte, qui remporte, on peut dire. Mais il l'injuriait, il se secouait la tête en disant, mais tu te rends compte, tu nous as dit tant de paroles, on les a entendues, ce que tu as dit. Ah, tu veux sauver les hommes, alors maintenant, eh bien, tu te sauves toi-même. Voilà, et on verra, on aura la preuve. C'est du voyeurisme, vous comprenez? Et ça, c'est méchant, c'est mauvais. Comme certains aujourd'hui nous disent, bah, si vous voulez que je croie en votre Dieu, eh bien, qu'il fasse un miracle. Remarquez, il y en a qui ont été pris au mot. Dans un sens ou dans un autre. Qu'il fasse un miracle et nous croirons en toi. Nous croirons en lui. Voilà. Ça, c'est pour la foule, naturellement. Et puis, il y a les vrais responsables de toute cette affaire. Et les vrais responsables, ils portent un nom. Ce sont les autorités religieuses. Ah oui. Qui aurait pu penser que le plus grand ennemi, la plus grande opposition de Jésus, le Messie, pour les Juifs, le Sauveur, le Rédempteur pour le monde entier, viendrait du cœur même de la religion? Ah, je peux vous dire que l'adversaire, à ce moment-là, a joué un coup fameux. Ça, c'était vraiment, ce qui pouvait sortir de mieux. Parce que ça confond tout. Ben oui, mais puisque c'est religieux, ça vient de Dieu. Mais non, excusez-moi. C'est pas parce que c'est religieux que ça vient de Dieu. Contrefaçon, finalement, de l'évangile. Contrefaçon, voire même de la parole de Dieu qui a été manipulée et transformée. Les autorités religieuses dont il nous est dit au verset 41. Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens, ils sont tous là. Se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Et vous voyez un peu le sourire, ou même voir le ricanement diabolique qu'il y a derrière. J'ose dire le mot. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de sa croix, et nous croirons en lui. C'est ce qu'on lui disait tout à l'heure. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu, tout simplement. Nous assistons à aussi, eh bien, ce qui peut émerger de l'âme humaine, de tous les tréfonds de l'homme. Eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler la provocation, la dérision et les moqueries. Et venant de ces gens qui se disaient être sages, ben, s'ils avaient été sages, ils auraient été modérés. Ils auraient été certainement beaucoup plus pondérés. Mais, en quelque sorte, ils étaient les maîtres de la nation, parce qu'ils avaient pignon sur roue. Et ils étaient certainement passés maîtres dans l'art de manipuler les foules pour les remonter contre un sujet ou un autre, ou contre une personne, c'est le cas, et ainsi de faire, excusez-moi l'expression, mais c'est un petit peu trivial, mais de faire aboyer les chiens, vous comprenez. C'est terrible, hein. Excusez-moi, mais c'est quand même ça, hein. Parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Si les soldats étaient étaient en service, puis qu'ils se sont comportés comme ça, mais ils étaient en service, et ils ne savaient pas, c'était l'inconscience. Si, qu'est-ce qu'il y a encore, Pilate, qui lui aurait dû savoir, parce que c'était quand même un magistrat, vous avez d'autres personnages, la foule de passants, bon, on pourrait dire, bon, ce sont des gens, ils ne sont pas trop au courant de ça, et puis ils profitent de l'occasion et du spectacle. Mais les autorités religieuses sont tenues pour les principaux responsables de la crucifixion, parce qu'ils avaient savamment, depuis tant de mois et tant d'années, préparé le meurtre de Jésus, et ils avaient tout simplement la main mise ou la haute main sur tout ce qu'ils pouvaient finalement influencer pour arriver au point que ce prophète de Nazareth, que le prétendu Messie d'Israël, soit évincé de la scène et puisse être tout simplement crucifié. C'était eux. Et ils se paient le luxe de la dérision, de la moquerie et de l'humiliation. Et puis il y a un petit verset, une autre forme de personnage qui se trouve là. Il nous est dit « Les brigands crucifient avec lui l'insultaient de la même manière. Jusqu'à un temps, ils sont deux. Bientôt, il n'en restera plus qu'un, parce qu'il y en a un qui va changer d'avis. » En voyant Jésus, en entendant ses paroles d'amour et de grâce alors qu'il est en souffrance, sur la croix. Et là, il va véritablement, celui-ci, ce larron, comprendra que, et il le dira sous une ultime prière, parce que il n'a pas longtemps à vivre. Il dira, il se tournera vers Jésus, il dira, mais Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus de lui répondre, comme quoi le purgatoire n'existe pas. Il lui dira, mais aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Voilà une autre attitude positive, celle-ci. Elle est positive. Mais les brigands, dans un premier temps, l'insulter de la même manière. L'insulte et la révolte devant le phénomène Dieu, le phénomène de l'Évangile. Ce qu'on ne peut pas accepter parce que il faut le comprendre, il faut le toucher, il faut le voir autrement, c'est pas possible. On ne peut pas adhérer. Alors que finalement, le message de l'Évangile s'adresse à notre foi et notre cœur. Et si notre cœur est honnête et bon, nous reconnaîtrons la vérité. Ce qui n'était pas encore capable de réaliser, là, à ce moment-là. Mais je vous dis, l'un d'eux, a passé le cap et lui, il a reconnu qui était Jésus. Allons encore un peu plus loin et au verset 47, il nous est dit « Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse-le, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Alors, là, nous avons une population anonyme, en quelque sorte. Tout à l'heure, on parlait de passants, de foule de passants. Mais là, il les a dit « quelques-uns de ceux ». Quelques-uns de ceux. Comme quoi, quelquefois, dans des drames, il peut y avoir encore un peu d'humanité, vous comprenez ? Comme ces femmes de Jérusalem, qui pleureront sur Jésus, qui lui donneront de l'eau. Et Jésus de leur répondre « mais ne pleurez pas sur moi. Ne pleurez pas sur moi. Et pleurez surtout sur vous et sur vos enfants. » Parce que Jésus savait que quelque temps après, puisque tout le monde criait « crucifie, crucifie », et que Pilate dit « non, je ne veux pas le crucifier ou je ne le crucifierai pas », alors à ce moment-là, foule reprenant, mais alors dans une ambiance délirante, ahurissante, que le sang de ce juste retombe sur nous et sur nos enfants. Ça n'a pas raté 40 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, non 40 ans plus tard, avec la chute de Jérusalem sous le général Titus, toute la ville de Jérusalem sera broyée. D'après les estimations, il y a eu en Palestine plus d'un million de personnes. Et puis tous ceux qui ont été sauvés, ils sont partis dans la diaspora, ce qui existe encore aujourd'hui. C'est terrible, hein ? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous vous rendez compte un peu ? Et les femmes de Jérusalem, à ce moment-là, diront, mais oui, oui, elles pleuraient. Jésus leur dit, non, non, c'est pas pour moi, c'est pour vous, parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui va arriver dans la suite. Alors, quelques-uns de ceux parmi cette foule déchaînée, véhémente, remplie de haine, il nous est dit que L'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge et le remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Ouais. Alors c'est du vinaigre. C'est vrai, ça pourrait passer peut-être pour quelque chose d'abominable. Mais peut-être qu'il y avait aussi, d'après les commentateurs, une vertu soporifique peut-être pour les douleurs et les souffrances. Bon, c'était peut-être la manière de faire dans cette lointaine antiquité, en tous les cas. Mais bon, moi, je veux y voir non pas quelque chose de négatif, mais un geste qui peut être un geste de compassion, comme le geste des femmes. Et puis, nous en arrivons pratiquement à la fin. Le verset 54 nous dit ceci. « Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Voilà. Peut-être le chef de ceux qui, des soldats qui se moquaient auparavant. Mais lui, à un moment donné, il était observateur, il s'est dit, mais j'ai l'habitude de voir des gens crucifiés, c'est mon travail. Il avait dû certainement voir des dizaines et des dizaines des gens que l'on mettait à la potence, que l'on envoyait sur le bois. Mais là, ce jour-là, il savait très bien comment ça se passait. Ceux qui étaient en agonie vociféraient, ils injuriaient, ils maudissaient le ciel et la terre. Mais là, au milieu, parmi ces trois, première fois qu'il voyait ça, il bénissait. Jésus bénissait. Il bénissait le monde. Et ce centenier, qui était un homme probablement intelligent, alors il était là en faction pour garder Jésus, le texte nous l'a vu. Alors quand il a vu à la fois la personne de Jésus, quand il a entendu certainement, parce qu'il était le plus proche, il était au pied de la croix, quand il a vu les phénomènes autour, le tremblement de terre, il nous est parlé, hein, et ce qui venait d'arriver, les ténèbres qui ont envahi le monde à ce moment-là pendant 3 heures, alors il a été saisi d'une grande frayeur. Ouais. Comme quoi, quelque part, eh bien, la foi peut être salutaire. Il a été interpellé profondément et il s'est mis à réfléchir. Il a peut-être pensé à sa propre mort, qui viendrait à un moment ou un autre d'une manière brutale ou d'une manière paisible, peu importe. Mais devant tout ça, il s'est dit, mais c'est pas possible. Il a eu le bon sens d'analyser les circonstances et il a dit, certainement, parce que c'est entendu, ça a été consigné par Matthieu, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Dans un autre texte, il nous est dit, assurément, cet homme était innocent, il était juste, mais là, c'est encore plus fort dans Matthieu. C'est Fils de Dieu, donc le Sauveur. Nous avons crucifié le Fils de Dieu. Nous avons mis à mort celui qui était destiné pour notre salut, pour le pardon de nos péchés. Il était le Fils de Dieu. Ouais, la peur qui conduit à la conversion. Vaut mieux pas passer par là, parce que moi je ne suis pas un prédicateur qui prêche la peur pour que les gens se convertissent. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, vous comprenez? Je suis témoin de Jésus seulement. Et Jésus, c'est la grâce. Alors, donc, il y a une prise de conscience dramatique, mais qui va l'amener à prendre position. Et c'est heureux. Encore une autre réaction et des attitudes devant la question Jésus. Puis je termine. Au verset 55, il nous est dit cette parole. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, vous savez, cette Marie qui a été délivrée de 7 démons. Il y avait Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Ces femmes, nous est-il dit, eh bien, regardaient de loin. Voilà. Et dans ces circonstances, il y avait quelque chose qui devait présider à ce que se tiennent éloignés. C'est dommage. Jésus a dit toujours « Venez à moi hein. ». Si vous vous approchez de Dieu, Dieu s'approchera de vous. Mais les circonstances étaient tellement horribles. Ce moment-là et ce jour-là à Golgotha, c'était un lieu, c'était un spectacle abominable. D'abord, tout pouvait être sujet pour être épouvanté. Le tremblement de terre, les morts qui ressuscitent, vous vous rendez compte hein? Et puis, il y avait cette obscurité. Et puis, dans cette pénombre tellement angoissante, parce que c'était le triomphe des ténèbres à ce moment-là, du monde des ténèbres, de celui qui est le prince de la mort. Alors, ces femmes se tenaient de loin. Et pourtant, c'était des familières de Jésus. Puisque vous l'avez lu avec moi, elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée. C'est-à-dire, ça faisait 3 ans. Ou peut-être moins. Mais elles avaient suivi Jésus pour le servir de leur bien. Comprenez? Et toutes parmi elles avaient certainement fait des expériences avec Jésus. D'une façon ou d'une autre, on a parlé de Marie de Magdala parce que c'était la délivrance pour elle. et il nous est donné les noms, naturellement. Alors, qu'est-ce qu'elles représentaient? Quelle attitude avaient ces femmes? À ce moment-là, elles connaissaient bien Jésus, elles aimaient Jésus, incontestablement. C'était des, en quelque sorte, des disciples féminins. Disciples féminins, au féminin, eh bien, de Jésus. Elles regardaient de loin. Elles étaient empreintes d'un sentiment de consternation, d'incompréhension, voire même de crainte. Et bientôt, un chapitre plus loin, eh bien, tout cela va s'envoler. Tout cela va disparaître et s'évanouir quand elles iront au tombeau et qu'elles verront que le tombeau est vide. Et un ange leur dira, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est extraordinaire. C'est merveilleux. C'est la révélation. C'est la puissance de la grâce de Dieu qui se manifeste. Elles étaient dans l'incompréhension à ce moment-là, et à un moment donné, tout va s'éclairer. Encore une autre attitude. Encore une autre réaction au phénomène Jésus, à la question de qui est Jésus. Et moi, dans cette affaire, moi qui écoute la parole, moi qui lis la Bible, tous ceux qui sont autour, qui entendront encore dans le temps, autant que le Seigneur permettra qu'il y ait des temps où l'Évangile sera annoncé, alors je dis, mais moi, que ferai-je de Jésus aujourd'hui? Autour de ce qu'il me propose, de son appel, de sa voix, de son message d'Évangile qui est avant tout une bonne nouvelle, qu'est-ce que je vais faire de Jésus? Est-ce que je vais avoir l'attitude de Judas? Est-ce que je vais avoir l'attitude de Pilate qui me lave les mains de ce que j'entends? Est-ce que c'est... Peut-être je ressemblerai à Barabbas, qui lui, après avoir été gracié, eh bien, continuera dans sa vie de brigand et de voleur. Est-ce que je serai à la ressemblance des soldats qui vont opposer à Jésus un mépris total, ou Simon de Cyrène qui va partir comme un malheureux chrétien et qui va toujours regarder le sol sans jamais regarder le ciel, parce qu'on l'a tellement chargé d'exigences et de commandements? Ou est-ce que je ressemblerai à la foule de passants, avec sa méchanceté et sa sottise, ou les autorités religieuses, parce que je sais, mais ce que je sais, ça ne m'intéresse pas, et je me moque? Ou est-ce que je ressemblerai aux brigands de droite, ou aux brigands de gauche, ou encore à ceux qui, peut-être, auront un geste de compassion, ceux qui étaient là, ou le centenier qui va avoir cette illumination, en disant, mais assurément, c'est le Fils de Dieu, ou ces femmes, qui vont découvrir à un moment donné que le salut, que le pardon de leurs péchés, eh bien, c'est une révélation de Dieu. Mais ça, faut aller par-delà la mort de Jésus, faut aller par-delà la croix, faut aller par-delà Golgotha, et faut arriver jusqu'au tombeau, parce que quand on ouvre le tombeau, eh bien, le tombeau est vide, parce que Christ est ressuscité pour nous sauver. Que Dieu nous donne sa grâce, que Dieu nous bénisse cet après-midi, et nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Que ferai-je de Jésus? Oui, c'est la question qui est posée à toute l'humanité depuis 2000 ans. Qu'est-ce que je vais faire pour moi? Qu'est-ce que je veux faire moi devant la proposition de Jésus? De ce Jésus qui est mort à ma place, qui a été le bouc émissaire, qui est celui qui s'est substitué à ma propre condamnation pour la prendre lui-même, afin que moi je puisse me tourner vers Dieu et que je puisse être déclaré juste, que je puisse être déclaré sauvé, pardonné, parce que quelqu'un, en effet, a payé à ma place le prix immense de ma condamnation. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce que la bonne nouvelle de Jésus, eh bien, c'est quelque chose qui s'adresse à toute conscience humaine. Et nous ne voulons pas avoir ces attitudes trop souvent, Seigneur, que nous remarquons dans notre humanité, qui sont des attitudes viles, des attitudes de fuite, des attitudes de défense, des attitudes de rébellion, de désobéissance, de querelle, d'incrédulité, Seigneur. Mais nous voulons avoir vraiment l'attitude de ce centenier qui a eu les yeux ouverts et le cœur ouvert, de ces femmes, même si elles regardaient de loin, même si elles ne comprenaient pas. Eh bien, c'est toi qui es venu au-devant d'elles pour leur ouvrir l'esprit, et elles ont rencontré un Christ ressuscité. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Seigneur, tu bénis ta parole pour chacun d'entre nous cet après-midi, parce que c'est un rappel. Nous te le demandons, Seigneur, donne-nous d'avoir vraiment, Seigneur, ces sentiments de noblesse vis-à-vis de celui qui nous a sauvés. Que nous puissions non seulement, Père éternel, aller dans le respect de ta personne, de ton œuvre, de tout ce que tu as accompli. Mais Seigneur, pour toi et pour toi seul, nous voulons t'apporter l'adoration d'un cœur qui se courbe devant toi et qui reconnaît que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Messie, que tu es le Rédempteur et le Sauveur de tous les hommes. Eh bien Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, bénis-nous et permets que nous prenions la bonne décision. Que nous nous mettions du côté des amis de Jésus et non pas du côté de ses ennemis. Que nous ne devenions pas les ennemis de Jésus, mais que nous puissions véritablement devenir de nouvelles créatures. Que nous puissions devenir des disciples de Jésus. Que nous puissions devenir d'authentiques chrétiens, dignes de ce nom, parce que notre cœur est engagé. Et merci notre Dieu. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.